Nous voici arrivés au temps de l'Avent, mais le temps de l'Avent fait vraiment charnière avec celui de la fin de l'année liturgique. Et on est toujours avec le jugement divin, avec la parousie du Seigneur. Les grands signes, le grand signe que nous attendons, c'est celui de Noël. C'est pourquoi dans la liturgie, on change de couleur et on se met en violet. C'est vrai que c'est la couleur du deuil, le violet, mais c'est donc la couleur de l'attente, on va dire. Liturgiquement, on est en pleine frustration, comme nous le sommes spirituellement, parce que nous attendons vraiment la révélation du jour du Seigneur, en tout cas pour chacun d'entre nous. Et en même temps, eh bien, on n'a pas dit « Gloria », parce qu'on le réserve pour le dire avec les anges et les bergers le jour de la naissance du Christ, quand nous la célébrerons ensemble. La liturgie nous prépare à ça. Et en même temps, elle nous prépare à contempler la fin des temps. Car si Jésus est venu à la plénitude des temps, c'était justement pour que l'histoire humaine s'accomplisse sans que tout explose, quoi. Alors, vous allez me dire, mais ces grands signes-là qui marquent le commencement. Et le commencement de quoi ? De la révélation du Seigneur dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Jésus fait un résumé ici de ce qui doit arriver. Ça occupe un petit chapitre dans l'Évangile. Saint Jean, lui, nous a laissé un texte, celui de l'Apocalypse, où il consacre un volume tout entier, aussi gros que son Évangile. Donc, juste sur ce petit paragraphe-là, vous imaginez le développement. Et on a un parallélisme vraiment qui est très très parlant avec l'ouverture du sixième sceau. Alors les sceaux, c'est ouvert au tout début du livre de l'Apocalypse, ça inaugure l'action apocalyptique. Et puis à la fin, donc 20 chapitres plus tard, au 20e chapitre plutôt, eh bien, c'est la parousie, c'est vraiment le retour du Christ. Mais entre les deux, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je vous lis l'ouverture du sixième sceau. Et ma vision se poursuivit lorsqu'il ouvrit le sixième sceau. C'est Jésus qui l'ouvre. Alors, il se fit un violent tremblement de terre et le soleil devint noir comme une étoffe de crin. Et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Donc vous voyez, ça commence exactement pareil, l'obscurcissement des astres. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule. Et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place, et les rois de la terre, et les habitants, et tous les grands personnages, et les capitaines, et les gens enrichis, et les gens influents, et tous esclaves ou libres, ils allèrent se terrer dans les cavernes, et parmi les rochers des montagnes, disant aux montagnes et aux rochers, « Croulez sur nous !» Et cachez-nous loin de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il est arrivé le grand jour, le jour de sa colère, et qui donc peut tenir ? Rien que pour le sixième sceau, vous voyez, déjà Jean nous donne quelques détails supplémentaires par rapport au résumé que Jésus nous fait. En tout cas, c'est exactement le même texte, avec en plus le comportement des hommes un peu développé. Et on comprend que le retour de Jésus se fait bien plus tard. Jésus, lui, comme c'est un résumé, il le mentionne à la fin. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Redresser la tête ce jour-là. Le sixième sceau, donc, ça marque un début. C'est ça que je voulais dire, surtout. C'est pas la fin, c'est pas le dernier moment dont Jésus s'entretient avec nous, comme on pourrait le croire sous sa forme résumée. Donc ça n'est que le début de cette histoire finale de l'humanité. Redressez-vous, redressez la tête, nous dit Jésus. Donc ça implique ça une épreuve préalable. Ça implique vraiment que la foi a été mise à rude épreuve, exactement comme la conclusion du passage s'y réfère aussi, hein, pour résister au monde et à ses valeurs. On a toujours ici l'idée donc d'un commencement. Et redresser la tête, votre rédemption approche, c'est-à-dire que ce n'est pas encore fait. Il faut simplement être plus attentif et on peut fonder vraiment là, à ce moment-là, une grande espérance. Entre le centre du message, lui, c'est résister à l'usure de la foi. Hein, c'est ce que dit Jésus. Tenez-vous sur vos gardes de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Alors c'est le même thème tout ça, c'est l'ivresse. Beuverie, c'est un lieu d'ivresse, bien évidemment, sauf que c'est collectif. Toutes sortes d'ivresse englobent tout. Et puis il y a l'ivresse, proprement dite, qui est la dimension personnelle du culte, du plaisir. L'ivresse, c'est le culte du plaisir, et en même temps, c'est l'antimystique, vous voyez, c'est essayer de donner un sens ou une nourriture palote à son âme pour la faire taire. L'ivresse, on a l'impression que ça nous procure des ailes, mais en réalité, c'est comme les chimères de l'Antiquité, elles vous saisissent, vous emportent haut avec leurs ailes et vous lâchent et vous écrasez par terre. Et puis, les soucis de la vie. Alors ça, c'est pas l'ivresse, les soucis de la vie, mais c'est l'autre partie. Les hommes sont extrêmement occupés et les sociétés qui tournent bien s'arrangent pour occuper le plus possible leurs concitoyens. Comme ça, ils n'ont pas le temps de penser. Et oui, les soucis de la vie, toutes sortes de soucis. Personne ne pourra se tenir devant le Fils de l'homme et lui dire « Bah écoute, j'ai jamais pensé à toi ». Parce que j'avais plein de choses à faire. J'avais un boulot, mon vieux Jésus. J'avais une formation à faire, j'avais des trains à prendre, j'avais un mariage à faire, un champ à acheter, une paire de bœufs à essayer. C'est ce qu'on lui a dit de son vivant. Ça ne marchera pas. Les soucis de la vie, ou l'ivresse, l'expérience de l'ivresse, eh bien, ça n'est pas une excuse pour ne pas penser au sens de la vie, pour ne pas penser, eh bien, à notre Créateur. Nous avons tout ce qu'il faut dans le monde où nous sommes immergés pour penser à Dieu rien qu'en tant que Créateur. Et il suffit de voir cette merveilleuse création qui nous entoure. La conclusion, ce que Jésus veut nous dire, c'est que Dieu ne fera jamais l'unanimité. C'est une chose qui nous afflige. Il est tellement magnifique ce Dieu qui est notre Dieu, on se demande pourquoi les hommes ne sont pas tous séduits par son message, par sa noblesse, par sa miséricorde, et par sa beauté, et par la douceur de l'amour qu'il nous propose de partager avec lui. Mais non, il ne fera jamais l'unanimité. Et à la fin des temps, pas plus qu'au commencement. Et les hommes, les païens s'entend, ceux qui ne croient pas, qui n'adhèrent pas au Christ, le premier sentiment qu'ils éprouvent, c'est la peur. Ah oui, parce que tant qu'ils étaient dans l'ivresse, tant qu'ils étaient hyper occupés, stressés, etc., à tourner sans cesse, ils n'avaient pas le temps de penser à leur peur, à la majesté de celui qui les attendait à la fin de cette histoire. Mais cette majesté est une gloire qui fait tomber à genoux toutes les créatures, et sans que c'est la peur de perdre sa petite souveraineté sur sa propre existence. Mais combien d'hommes ont peur de perdre la souveraineté sur leur vie en adhérant à Dieu, alors que Dieu, lui, non. Il nous traite comme des enfants, mais ça, nous le savons parce que nous avons expérimenté sa présence. Mais sinon, ça, c'est des idées toutes faites qui viennent du démon, hein. qui sont insufflés par le démon pour engendrer la peur. Ensuite, il y a le refuge dans les cavernes du pays, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Les hommes ont peur et au lieu de se convertir, ils vont se réfugier dans les cavernes, c'est-à-dire ce qui symbolise les valeurs matérialistes. Dès qu'on commence à être un peu ébranlé, eh bien on en rajoute en termes de matérialisme, quoi. C'est s'enfoncer, c'est les nucrèdes, c'est s'obstiner à fuir Dieu, c'est détourner le regard fondamentalement. Croulez sur nous, disent les hommes au rocher, croulez sur nous pour nous mettre à l'abri de la colère de celui qui vient, de la colère de l'agneau, donc de la parousie. Et qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Eh bien, ce qu'ils formulent là, c'est un oubli total de Dieu. Vous voyez, ils rêvent, ces hommes-là, de se construire un sépulcre, au sens spirituel du terme, enfermés dans les valeurs de la matière, matérialistes, pour hermétiquement clos, comme un tombeau, et pour qu'il n'y ait aucune lumière qui passe, surtout pas, et être là, dans leur petit recoin, exactement lorsque, comme dans la dixième plaie d'Égypte, vous savez, la plaie des ténèbres, où les Égyptiens se terraient dans les recoins parce qu'ils étaient morts de peur, justement, morts de peur à cause de la perte de la lumière extérieure. Il s'agissait de la lumière du sens de la vie. Ils avaient perdu ça momentanément, et donc ils se terraient dans les recoins, comme ces hommes de la fin des temps se terrent dans les cavernes et demandent aux rochers de vite fermer l'ouverture. Les hommes iront jusque-là, c'est ce que nous dit Jésus, c'est ce que nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse. Il y a une obstination, Dieu ne fera pas l'unanimité. L'amour, la vérité, ce sont des idéaux magnifiques. Personne ne les contestera, pas même parmi les païens, directement en tant qu'idéal magnifique. Mais on commencera à relativiser. Pilate, oh, la vérité, c'est quoi la vérité? C'est un peu abstrait. Une vérité, chacun la sienne. L'amour, oui, mais l'amour, ça peut être beaucoup de choses. Caresser son chien dans le sens du poil, ça c'est de l'amour. Et je veux que mon chien soit avec moi au paradis. Sinon Dieu est méchant et je préfère que les rochers tombent sur moi et m'ensevelissent avec mon chien plutôt que de rentrer au paradis sans mon chien. Je caricature, mais c'est un peu ça. L'amour, c'est facile à caricaturer malheureusement. C'est-à-dire entretenir avec des créatures un amour spirituel, mais des créatures qui sont matérielles et qui ne peuvent pas répondre à cet amour-là. Il n'y a que les humains, les anges et Dieu lui-même qui peuvent répondre à un amour spirituel. Les païens sont pris à l'improviste. Et Jésus dit, vous ne soyez pas pris à l'improviste. Et ils sont pris à l'improviste parce qu'ils sont empêtrés dans la recherche de l'ivresse et dans l'ivresse elle-même. Et dans les soucis de la vie, et comme ils ne pensent pas, il n'y a aucune méditation sur le sens de la vie, de leur vie, et qui est passagère, etc., etc., eh bien, par rapport à l'éternité et par rapport à l'expérience de la mort, ils n'y pensent pas, donc ils sont pris à l'improviste. Tous ceux qui ne méditent pas sur le sens de la vie, peu importe s'ils trouvent les réponses tout de suite, mais le fait de s'y appliquer, c'est déjà être de la vérité, comme dit Jésus à Pilate. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, c'est-à-dire finira par entendre ma voix, fût-ce au dernier jour. Mais au dernier jour, ils la reconnaîtront. Les croyants, eux, bénéficient, et c'est magnifique, nous bénéficions de la révélation divine qui nous oblige à méditer sur le sens de la vie et notamment avec les fins dernières. Et ces fins dernières nous disent quel est le début, l'alpha, et quel est l'accomplissement, l'oméga de l'histoire humaine. Et c'est vraiment le triomphe de Dieu, mais pas un triomphe sur la terre. Sur la terre, Jésus continuera sans cesse d'être nié par toute une partie de gens. et sans pouvoir rassembler autour de lui l'humanité entière. C'est la liberté, et Dieu accepte cela. La parousie, c'est un événement spirituel, lui qui vient conclure. Vous voyez, il y a tous ces avertissements préalables, mais il se passe beaucoup de choses. Dans les discours eschatologiques, c'est juste un résumé d'étapes qui nous est proposé. Dans l'Apocalypse, alors là, on a droit à tout le développement et on comprend mieux. Mais lorsqu'à la fin, Jésus se montre tel qu'il est, lorsqu'il combat avec l'épée de sa bouche qui est la vérité tous ses adversaires et qu'il les défait, eh bien, l'événement qui est pointé n'est pas un événement matériel. Il y a beaucoup de révélations privées, encore en ce moment, qui courent et qui nous disent « Ah ben tiens, regardez le ciel à telle heure, tel jour, enfin telle nuit, on va dire, et, ou même tel jour, pourquoi pas. » Et alors la partie nord, est, tant de degrés, machin chose, pas, surtout pas à côté, et là vous verrez qu'il va briller un truc d'un seul coup, ça durera une minute, munissez-vous de... etc. Je caricature à nouveau. La parousie, nous dit Jésus, on lui a posé la question à Jésus il y a 2000 ans. Il dit, on vous dira, il est ici. On vous dira, il est là, il est ici, il est là, il est là-bas. N'y allez pas. Parce que quand le Fils de l'homme viendra, tout œil le verra. Et c'est exact, parce que c'est un événement spirituel. Il n'y aura pas de signe dans le ciel particulier, en tout cas pas pour marquer la parousie. Il y aura des signes, parce que Dieu fait toujours accompagner, vous voyez, il prend des comparaisons, il prend la nature, une nature qui est en plein chaos, vraiment une crise climatique majeure, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'image. Cette image, c'est pour nous parler d'une réalité spirituelle. Mais en même temps, Jésus, il est Dieu. Quand les gens verront les réalités spirituelles, il en verra en même temps, dans cette nature très matérielle, des signes réels aussi. Mais il ne faut pas prendre des signes qui viennent confirmer une prise de conscience pour l'origine, pour la fin en tout cas. La fin est d'ordre spirituel. L'illumination, c'est celle de l'intelligence, c'est celle du cœur, ce ne sera pas celle de nos yeux de chair. Donc, toutes les révélations privées qui insistent uniquement sur le réchauffement climatique, ou je ne sais pas quoi, enfin sur des tas de chaos au niveau de la nature et du cosmos, et passent à côté. Jésus les utilise, mais pour nous parler d'une réalité d'un autre ordre. Et donc, soyons vigilants. Et vigilant, ça veut dire attentif, laissons Dieu nous instruire, nous faire comprendre peu à peu les choses. N'allons pas trop vite dire « Ah oui, c'est en 2022 que le Christ va revenir ». N'allons pas trop vite pour faire ça. Mais dans l'Apocalypse, il est bien dit que la Marie, l'Immaculée, est emmenée au désert, où un lieu de refuge lui est donné jusqu'à ce que l'agneau paraisse. Et Marie, l'Immaculée, aujourd'hui encore, eh bien prépare pour les élus, pour les croyants, ce lieu-là, c'est le désert intérieur, c'est l'intériorité de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un lieu qu'il faut chercher, je ne sais pas moi, à Hawaï ou ailleurs, ou au Sahara, non, c'est ou sur le Massif central. Non, c'est un lieu que nous connaissons déjà, que nous portons en nous. C'est cette intériorité, c'est là qu'est le véritable refuge. Alors demandons au Seigneur vraiment de nous instruire, de nous faire... Ainsi nous demeurerons dans la paix. Pas besoin d'être trop inquiets sur les choses qui viennent. Je suis bien d'accord avec vous que c'est un véritable chaos actuellement. C'est vrai que la création tout entière est en train de crier là, à plein poumon. Mais en même temps, même si l'humanité avait été sage, ça correspond quand même à des rythmes cosmiques qu'il est difficile de contester. Et puis, l'Église est en crise. C'est vrai qu'en ce moment, la dernière crise, là, c'est le pauvre archevêque de Paris là, qui est bombardé. Là. Et il y avait, après Lyon, c'est Paris, et les rapports sur la pédophilie, enfin, on n'en finit plus. Là. C'est vraiment une église, mais ça montre que l'église est quand même visée. Quelqu'un, le démon en fait, mais le démon tient beaucoup à ce que l'église soit disqualifiée le plus possible pour que son message ne paraisse pas, pour que les hommes bien s'ensevelissent bien tranquillement dans leur grande caverne et que surtout qu'ils bouchent l'entrée et que le petit royaume du diable soit tranquille et qu'il n'y ait pas de ce Dieu qui vient demander des comptes là, sans arrêt. Soyons rassurés, demeurons dans la paix. Jésus nous dit ce que nous devons faire. Être attentif, ne pas nous ensevelir nous-mêmes dans les valeurs matérialistes, les soucis de la vie, et être éveillé, eh bien, c'est-à-dire un cœur qui désire la venue du Seigneur. Un cœur qui désire la venue du Seigneur, c'est une âme qui est en état de veille, et lorsque le Seigneur viendra, elle ne le manquera pas. C'est impossible. Et elle n'aura pas besoin de signes extérieurs pour remarquer sa venue.